Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Customers are rushing to your store. Do you have a point-of-sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. Shopify.com/theathletic.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpin Basu et de sa voix roucoulante.
Ouais, j'ai eu un petit toux cette semaine, alors c'est ça qui est ça. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour l'état de ma voix, mais les mots sont pareils, sont juste ils ont l'air juste un peu plus sexy.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un petit côté rappeux, là, un petit côté France Castel là, qui n'est pas à dédaigner. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, on va. Je pense que ça s'impose à la suite de la victoire du Canadien jeudi soir au Centre Bell face aux Coyotes de l'Arizona qu'on revienne sur les performances de Juraj Slafkovský, de Arber Jacky, qu'on parle des jeunes en général depuis le début de la saison. On a un premier échantillon de 5 matchs à se mettre sous la dent. C'était intéressant également, on avait deux formations qui ont été projetées en début d'année comme étant deux équipes qui allaient pouvoir se faire la lutte pour l'obtention du premier choix au repêchage. Donc, une sorte des deux équipes qui vont avoir des boules dans le boulier pour la loterie Connor Bedard. Alors, on va parler sabordage, on va parler tanking un petit peu. Puis, on va terminer l'émission en parlant du retour au jeu prochain de Yoel Armia. On sait qu'il patine avec l'équipe déjà depuis plusieurs jours. Alors, on devrait le revoir à l'entraînement avant longtemps. Qu'est-ce que ça va signifier en termes de décision d'alignement? Il y a quelques jours, Martin Saint-Louis a décrit la situation comme étant l'éléphant dans la pièce. Sachant que le Canadien aura, au retour d'Armia, 15 attaquants à sa disposition. Mais tout d'abord, Arpin, j'aimerais ça t'entendre sur, parce que c'est là-dessus, l'essentiel de ton texte paru la nuit dernière sur athletic.com portait sur Slafkovský, sur son premier but en carrière dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu as pensé de la mise en scène de ce but-là, de sa réaction et de l'impact que ça peut avoir sur le jeune homme?
Oui, c'est un peu ça. C'est tellement intéressant comme premier but parce qu'il y avait tellement d'éléments qui ont rentré dedans, incluant toute l'histoire du tape de son bâton qui sais, qui a pris de l'ampleur cette semaine pour une raison quelconque, mais effectivement, ça a l'air d'être une vraie chose. Dans le vestiaire du Canadien, il y avait Brendan Gallagher qui, ça a l'air qu'il a, qui a raconté le premier jour du camp d'entraînement que c'est pas vrai que tu vas jouer dans la Ligue nationale avec, avec du tape de même. Alors, il y avait ça. Mais tu sais, j'ai pris ça pas pour, pas que, comme étant quelque chose, comme histoire, une histoire de tape. C'était, pour moi, c'est une histoire d'une façon d'incorporer ce jeune-là dans l'équipe, de le faire inclure, tu sais, pour moi, c'est une histoire de camaraderie, tu sais, c'est une histoire de comment tu intègres un jeune dans une équipe, les petites choses que tu fais. Alors ça, c'est, ça a l'air niaiseux, et moi, je le trouvais bien niaiseux, mais c'est juste, c'est des choses eux-mêmes qui arrivent dans une équipe de hockey. À quel point Brendan était content pour lui, il fallait lui dire qu'il faudrait donner un petit salut à la foule après que la foule scandait son nom après le but, tu sais, un peu comme un curtain call au baseball. Tu sais, des fois, les coéquipiers, il faut qu'ils poussent le gars pour aller faire. Gallagher était à côté de lui sur le banc. Alors, c'est des petits moments comme ça. Puis même étant nommé le premier étoile du match, Brendan Gallagher était nommé le troisième étoile du match. Puis en revenant de son petit tour, il a dit à Stavkowski, « Hey, quand tu sors, il faut que tu fais un full... » un lap autour de la patinoire. Puis Stavkowski était comme, vraiment, là, honnêtement, est-ce que ça, c'est une, est-ce que c'est une autre affaire de recrue, là, où je suis pas vraiment supposé faire ça, puis essayer de faire un tour sur moi ou jouer un tour? Alors, je trouve ça bien drôle, mais ça démontre à quel point ce gars-là a joué 5 matchs dans la Ligue nationale. C'est la première fois qu'il était nommé le premier étoile. C'est normal qu'il ne sait pas. C'est, oui, effectivement, il faut que tu fais le tour de la patinoire, il faut que tu lances des rondelles dans la patinoire, dans la foule. Et le fait qu'à sa troisième rondelle, il y avait comme deux sections, un de chaque bord de lui, puis tu sais, il mettait sa main à son oreille pour dire, hey, lève le ton, tu sais, le côté qui est le plus bruyant va recevoir ces rondelles-là. Alors, démontrer un peu la personnalité de Slavkovski et comment, comme Ken Hughes parlait quand ils l'ont choisi, comment ce gars-là serait capable de vivre avec, l'environnement unique qui existe à Montréal, tu sais, ça c'était un exemple à mes yeux de ça, de comment sa personnalité est bien fait pour jouer à Montréal. Alors, il y a tant d'aspects de ce soirée-là, ce moment-là, qui m'a frappé aux yeux, mais honnêtement, c'est le rôle de Arbor Jackal là-dedans, étant déjà, tu sais, avoir déjà créer une certaine amitié avec Stavkowski. Tu sais, il y avait un plan de vivre ensemble. Finalement, ça serait pas le cas, mais c'est deux gars qui s'aiment beaucoup. Et ça se voyait sur ce but-là. Alors ça, c'était intéressant parce que c'était un moment important pour les deux en même temps.
Mm-hmm. Avant qu'on passe à Arbor Jackal, je voulais rajouter par rapport... Tu mentionnes le nom de Brendan Gallagher, puis du fait que bon, il a donné des conseils au niveau du ruban utilisé sur le bâton, comment se comporter justement par rapport à la foule, etc. Mais de manière générale, j'ai l'impression que autant Gallagher, Josh Anderson, puis l'équipe en tant que telle, l'équipe en général, a l'air de s'être attaché très rapidement à Stavkowski, à veiller sur lui de manière très bon enfant, et d'être contente de l'intégrer à l'environnement de l'équipe d'une manière que je n'avais pas senti autant quand il était question de Jesperi Kotkaniemi. Tu sais. Ça m'apparaissait toujours un peu plus hésitant dans le cas de Kotkaniemi, de dire « Ouais, c'est un bon jeune joueur, puis c'est le fun, il va apprendre, c'est bien. » Mais j'ai l'impression que dans le cas de Stavkowski, peut-être que c'est une question de personnalité. Je ne sais pas si ça doit déborder les stricts cadres du hockey, mais j'ai l'impression que c'est fait avec beaucoup plus d'enthousiasme. Puis ils sont contents, ils veulent qu'ils réussissent, ils veulent qu'il y ait du plaisir, ils veulent qu'ils se sentent partie prenante de l'équipe parce que ça va être un rouage important de la formation, mais j'ai l'impression que le rôle que les vétérans se donnent de l'encadrer comme il faut puis de faire en sorte que la transition se fasse en douceur m'apparaît beaucoup plus senti que dans le cas de Kotkaniemi. Je ne sais pas si tu partages mon feeling à ce niveau-là.
Mais en fait, oui, parce que, et je ne pense pas que c'est une question de personnalité, parce que je pense qu'en termes de personnalité, Kotkaniemi était très bien reçu dans l'entourage de l'équipe. Il n'y avait pas grand monde dans cette équipe-là qui n'aimait pas ce qu'il y a là. il avait un peu les mêmes caractéristiques. Il souriait beaucoup. Il était heureux d'être à la patinoire. Il avait une bonne attitude. Le monde l'aimait, sauf que la différence entre Kokinami à cet âge-là et Savkoski à cet âge-là, c'est que je pense qu'il y avait du monde dans ce vestiaire-là qui avait des doutes que Kokinami avait sa place dans la Ligue nationale, physiquement. Il voyait jouer, tout le monde voyait le talent, mais de là à aller, tout d'un coup, c'est notre troisième centre à 18 ans avec ce shape-là, avec ce gabarit-là, pas certain. T'sais, alors, je pense que c'est un peu plus mitigé, tandis que Slavkovski, je pense que physiquement, tout le monde est d'accord qu'il est prêt pour la Ligue nationale. T'sais, c'est les autres aspects de son jeu qui sont peut-être plus... Tu pourrais débattre sur les autres qualités de son jeu, mais on peut pas se dire que physiquement, ce gars-là n'a pas sa place en Ligue nationale. Mais je pense que les autres aspects de son jeu a rapidement convaincu ses coéquipiers que oui, ce gars-là peut nous aider. Puis si nous, on l'intègre bien, puis on l'aide, lui, il va nous aider avant la fin de la saison. Et je pense pas qu'il y avait ce même dynamique-là, au moins pas avec autant de gars dans le vestiaire avec Kotkaniemi. Je pense que beaucoup de monde voyait Kotkaniemi comme étant là en termes de... à cause des circonstances, à cause du fait que le Canadien avait besoin d'un joueur de centre, avait besoin d'un gars pour jouer le rôle que Kotkaniemi a été donné. Et c'est pas nécessairement à cause du mérite, c'était pas nécessairement à cause que Kotkaniemi a nécessairement gagné un job, même s'il avait connu, si on se rappelle, il avait connu un très bon camp d'entraînement, il a joué plusieurs matchs préparatoires, puis il a bien joué. Alors, oui, tu pourrais dire que peut-être qu'il a gagné ce job-là, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il y avait un trou béant aux positions de centre à l'époque. Et c'est pas le cas avec Savkovski. C'est pas comme si ça aide la cause du Canadien. Tu viens de mentionner, une fois qu'Armia revient, c'est une situation qui est un peu non gérable pour le Canadien avec le nombre d'attaquants, mais il est là quand même. Et je pense que les gars sont capables de voir que ce gars-là est ici parce qu'il peut nous aider, peut-être pas tout de suite, mais dans 3-4 mois, s'il continue à jouer sur une base assez régulière, c'est un gars qui a quand même un package qui est quand même unique dans la Ligue nationale, puis il voit le potentiel plus à court terme d'un gars comme ça qu'ils l'ont peut-être vu avec Kotkaniemi. Alors, je pense que moi aussi, j'ai la même impression, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est basé sur la personnalité des deux, parce que je trouve la personnalité, en fait, quand même assez similaire, même si Kotkaniemi avait un peu plus était un peu plus, disons, timide à cause de la langue, puis, tu sais, il maîtrisait, tu sais, son sens d'humour sortait pas souvent en scrum, comme ça arrive avec Slavkovski, mais quand tu parlais tout seul, c'est souvent, il faisait des blagues, puis ses coéquipiers disaient la même chose. Alors, c'est vraiment, oui, je le vois, mais c'est vraiment, je pense, qu'une fonction de ce que ce gars-là, peut apporter à l'équipe tout seul.
Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Le contexte très favorable du match d'hier où le match a rapidement été hors de portée pour les Coyotes. Le Canadien, Martin Saint-Louis a géré son banc différemment. Ça lui a permis de donner beaucoup plus de temps de glace à des joueurs de troisième et quatrième trio pour lesquels il y avait peut-être un peu plus de difficultés dans les matchs précédents à leur trouver, tu sais, un temps de glace à leur juste mesure. Il a équilibré ça de la même manière aussi au sein de ses duos défensifs pour éviter de surtaxer un gars comme David Savard, par exemple. Mais là, ces circonstances-là ont fait en sorte que Slavkovski a pu jouer 14 minutes 26, ce qui est son plus haut total d'utilisation dans ses 5 premiers matchs. Mais on va se le dire, là, même si, bon, écoute, il y a eu 3 lancés, il a marqué son premier but, ça a été sa plus haute utilisation dans un match depuis le début de la saison, mais il ne m'est pas apparu que dans les 4 matchs précédents, il avait nécessairement été dominé à un point où tu te dis « My God, ce kid-là, il n'a pas d'affaires dans la Ligue pour l'instant. » Il avait été discret, puis encore là, ça, on en revient, on en a déjà parlé dans des épisodes auparavant, ça revient à des questions, quelles sont nos attentes à l'égard d'un jeune de 18 ans qui arrive dans la Ligue nationale et quelles sont nos attentes à l'égard d'un premier choix overall, mais il ne prenait pas d'assaut la Ligue nationale puis dire « Wow, OK, on a vraiment un diamant, un joyau entre les mains. » Ça n'a pas été le cas, mais on peut pas en même temps dire « C'est problématique parce que soit qu'il ne joue pas assez, ou deux, il montre qu'il n'est pas assez fort pour la Ligue nationale. Je pense qu'il a été géré de façon très, très dosée. On ne lui a pas donné d'unité spéciale encore. Mais je pense que le fait que lui vive finalement ce moment-là, un moment d'allégresse au terme de ces cinq matchs-là, puis qu'il puisse continuer d'aller de l'avant, je trouve que c'est de bon augure, parce que je regarde à l'heure actuelle, il y a seulement lui et Shane Wright qui sont des recrues de 18 ans, des joueurs issus du dernier repêchage qui sont dans la Ligue nationale à l'heure actuelle. Puis Shane Wright joue 6 minutes 33 en moyenne avec le Kraken de Seattle. On peut s'inquiéter de son côté de savoir est-ce que c'est le meilleur endroit pour qu'il se développe. Mais dans le cas de Slafkovský, je pense que même s'il devait être limité à 10, 11 minutes par match, peu importe, puis qu'au gré des mouvements de personnel ou des blessures, il monte dans le line-up et qu'il se retrouve sur un trio ou un autre, je pense qu'il y a quand même moyen que dans ce cadre-là, il puisse apprendre beaucoup et puis qu'il puisse sans ressentir nécessairement une pression de production, ben, qu'il puisse retirer un grand nombre de choses de sa première saison dans la Ligue nationale pour faire en sorte que l'année prochaine, il soit peut-être déjà plus prêt à être un joueur d'impact.
Ben, écoute, après jeudi soir, il l'a déjà. Ce que tu viens de décrire, là, il l'a déjà. Il y a un moment qu'il a vécu qui aide à son développement, qui aide au fait de comprendre c'est quoi jouer à Montréal, c'est comprendre c'est quoi ce foule-là, c'est quoi cette équipe-là, à quel point cette équipe-là est importante dans cette communauté-là. Il y a tant de choses qu'il a appris, qu'il a vécu et qu'il a ressenti. Tu sais, il a dit que c'était un de ses plus beaux feelings de sa vie après avoir marqué un but. Tu sais, ouais. Il y en a quelques... Il voulait pas dire que c'était de loin le meilleur, mais ça fait partie du top 5 au moins, là. Tu sais, c'est comme, c'est quelque chose, un moment marquant de sa vie qui va se rappeler le reste de sa vie. C'est ça ce qu'il a dit. Alors, des moments comme ça, tu sais, t'as ton premier match dans la Ligue nationale, mais ton premier but dans la Ligue nationale, c'est quelque chose. Puis, le plus longtemps, il reste avec le Canadien, puis on verra, tu sais, personne doit partir au panique non plus s'il part à Laval. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça, qu'il soit à Laval en ce moment, mais, c'est, s'il était à Laval, il n'y aurait pas eu ce soir-là. Il n'y aurait pas eu ce moment-là qui est tellement, pas, non seulement utile, mais important pour un jeune joueur de ressentir ça au niveau de motivation, au niveau de le pourquoi que tu joues pour une équipe. Ce sentiment-là a pris ses premiers pas jeudi soir. C'est vraiment... pour lui de ressentir la foule qui se rend son nom, pour lui d'être nommé la première étoile avec les gens qui restaient au Centre Bell, puis il y en avait quand même assez, il y avait plusieurs, c'était pas plein comme pendant le match, mais il y avait beaucoup de personnes qui ont resté pour les trois étoiles. Ça, c'était un autre feeling, de faire l'entrevue avec Marc Denis après le match, mentionner à la foule que c'est le fun de jouer avec Arbour parce qu'il peut tuer n'importe qui. puis ça a l'air qu'après ça, il est rentré dans le vestiaire puis il a dit la même chose. C'est tous des moments que lui va se rappeler, puis ça représente une partie de son développement. C'est pas quelque chose de tangible comme l'échec avant ou comment se placer défensivement d'une façon responsable. Mais c'est quand même un volet de son développement qui vient de passer à travers jeudi soir. Et tu sais, Martin Saint-Louis, quand en fait je lui ai demandé une question, tu sais, est-ce que c'était important de passer à travers ce moment-là, parce que ça allait venir à un moment donné, le fait qu'il a seulement fallu attendre 5 matchs pour que ça arrive, tu veux pas non plus que ça s'éternise puis ça devient une manchette dans la nouvelle, quand est-ce qu'il va marquer, c'est ça. Et c'était, je trouvais, la réponse de Martin était quand même particulière, parce qu'il était comme, il va falloir que je fais attention avant de répondre à ces questions-là. Tu sais, il l'a pris vraiment au sérieux, puis c'était pas le but du question, tu sais, je pensais pas que c'était une question si, qui était si comme, tu sais, si profond ou si...
délicate aussi.
Délicate, ouais. Ouais, c'est ça, je pensais, c'est honnêtement, c'est un peu banal comme question, mais sa réponse en disait long, en disant que, tu sais, les résultats, tu sais, on essaie de, de garder l'emphase sur le processus. Mais le processus va pas dire, tu sais, ça vaut pas grand chose s'il y a jamais de résultat. Alors, nous, on veut pas mettre l'emphase sur le résultat. On veut que le processus demeure notre priorité. Mais ce processus-là est aidé quand tu as des résultats. C'est vrai au niveau de l'équipe et c'est vrai au niveau de l'individuel. Alors, quand tu dis certaines choses, puis honnêtement, tu regardes le but, et ce serait pas difficile à croire que, tu sais, Slavkovski était en train, parce qu'il a vu Chakaï passer direct devant lui pour aller planter Josh Brown dans le coin, puis on va en revenir là-dessus. Mais Slavkovski, en voyant ça, il faisait un repli pour effectivement couvrir la position de Chakaï qui venait de libérer. Alors, ça donnait que, en faisant ça, la rondelle s'est retrouvée sur son bâton puis a marqué un but. Alors, j'essaie de voir ça du point de vue de Martin. Tu sais, c'est sûr que voir Chakaï poser le geste qu'il a fait, en termes de coéquipier, t'aimes voir ça, mais en termes de stratégie défensive, c'est pas nécessairement la chose que tu veux voir de ton défenseur recru. Mais je pense que Martin était d'accord avec parce que l'intention était bonne et que le résultat a fait en sorte que, en faisant la bonne chose, je parle de Slavkovski ici, mais en faisant la bonne chose, de réagir de la bonne façon, d'aller couvrir pour son coéquipier, il a été récompensé avec un but. Alors, tu sais, tout ça est important dans le processus que le Canadien est en train de faire maintenant. Mais je trouve que la réponse de Martin, on devrait le rappeler toute la saison. Tu sais, si jamais le Canadien réussit à remporter, disons, au mois de janvier, il remporte 4-5 matchs de suite. Disons. Puis tout le monde se met à freaker parce que, ah non, le plan, ça tu sais, le choix au repêchage, ils sont en train de gâcher ça. Mais il faut se rappeler de ce que Martin Saint-Louis a dit après ce match-là parce que c'est important.
Oui, puis, tu sais, le Canadien a gagné 3 de ses 5 premiers matchs. Il entame la saison de manière plus positive que je pense n'importe qui l'aurait imaginé. Et je pense que pour des jeunes joueurs, tu sais, ils sont 4 ou 5 recrues dans la formation à l'heure actuelle. Et d'entamer leur carrière dans la Ligue nationale avec le Canadien dans une atmosphère victorieuse. Le Canadien a gagné ses 3 premiers matchs au Centre Bell, puis chaque fois, ça a été un super spectacle, ça a été une ambiance électrisante. Je pense que ça fait en sorte que la première impression qui vient à ces jeunes-là, c'est de dire « Hey, c'est donc le fun de jouer à Montréal! C'est donc bien cool! » Tu sais, ils sont tout de suite en contact avec l'aspect positif du fait de jouer à Montréal. Puis je pense que c'est bon qu'ils expérimentent ça tôt dans la saison ou tôt dans leur carrière au lieu d'avoir une longue traversée du désert qui pourrait durer peut-être, je sais pas, une saison complète ou je te dis pas une saison complète sans qu'ils gagnent un match, mais une saison complète sans que tu sentes vraiment le côté grisant. L'espèce d'allégresse, l'espèce de vibe qui rend le Centre Bell unique, ben là, le fait qu'il y a autant d'emballement autour de ces jeunes-là en début de saison, je pense que ça fait en sorte que tout de suite, ils se rallient à cause de l'équipe. C'est le genre de situation, c'est le genre de début de saison que clairement, ces jeunes-là qui sont déjà très contents d'aller dans la Ligue nationale, de porter les couleurs du Canadien, ils vont être doublement motivé à dire « Hey, c'est pour cette équipe-là que j'ai envie de jouer puis que j'ai envie de me défoncer. » Et on le sent chez Slavkovski, ça c'est clair depuis le premier jour. Puis on le sent aussi chez Harbour Chakaï qui lui est un peu sorti d'une boîte de Cracker Jack dans une certaine mesure parce que c'est pas, il a pas été repêché, il a été embauché, comme on le sait, comme joueur autonome au terme du camp d'entraînement de l'année dernière. Donc c'est la dernière embauche de Marc Bergevin, dans le fond, comme sur le marché des joueurs autonomes. C'est toute une prise. Chakaï n'était pas. Le Canadien n'était pas le seul à convoiter ses services, sauf que en très, très peu de temps, ce jeune-là vient occuper une case qu'on ne voyait pas personne autrement occuper chez le Canadien en termes de présence intimidante, en termes de mâle alpha, si tu veux. Et également de progresser si vite au plan hockey pour faire en sorte qu'il passe d'un gars de 20 ans dans la Ligue junior de l'Ontario à un défenseur régulier dans la Ligue nationale en début de saison. Oui, avec quelques hauts, quelques bas, mais de manière générale, avec une espèce d'attitude, de bagou qui est super attirant pour les fans, sûrement très intéressant pour les coéquipiers de dire hey, on a ce type de gars-là dans notre équipe qu'on ne pensait peut-être pas nécessairement avoir, du moins pas tout de suite. Et je pense que ça change un petit peu tout le portrait d'ensemble de cette équipe-là, de savoir qu'ils vont avoir pour les années à venir un joueur de ce profil-là dans l'équipe. Je trouve que c'est un ingrédient très intéressant à avoir dans une équipe de hockey parce que c'est de plus en plus rare. Mais en plus, c'est que ce gars-là, non seulement il est timide, non seulement il a sacré une volée à Zach Cassian. Tu as mentionné sa mise en échec sur Josh Brown qui essayait de s'en prendre à Slafkovský. Ça a ouvert le chemin à Slafkovský pour son premier but. Mais en plus, ce gars-là s'est joué au hockey. Puis, tu sais, à terme, je pense que c'est pas un gars que son entraîneur va avoir une quelconque inquiétude à l'envoyer dans la mêlée pour une variété de missions. T'sais. Alors, Slafkovský, c'est le fun parce que c'est un premier choix overall puis c'est comme le gros espoir, mais c'est complètement l'opposé dans le cas de Jack Eye qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais écoute, c'est pas un cheveu dans son cas, c'est un bio.
Oui, absolument. Puis honnêtement, l'effet du but pour Slafkovský, je pense que Jack Eye l'a vécu avec son combat contre Cashin. Écoute, moi, je suis pas un gars qui adore voir les bagarres au hockey. Plus souvent que non, j'espère juste qu'il y a personne qui se blesse sérieusement pendant une bagarre, là, mais je dois le dire, là, pendant ce bagarre-là, c'était quand même... Tu voyais pas l'importance, mais pour Jack Eye, tu sais, il avait besoin de quelque chose comme ça, un moment comme ça, parce que il faut l'avouer, là, tu sais, les quatre premiers matchs, tu disais qu'il y avait des hauts et des bas, tu sais, il y avait pas mal plus de bas que des hauts, tu sais, c'est comme, tu voyais que le rythme du jeu dans la Ligue nationale, c'est un peu trop rapide pour lui. Puis, honnêtement, aussitôt que Joel Edmondson est de retour, si jamais ça arrive, il patine tout seul en ce moment, alors il a l'air d'être sur la voie de retour bientôt. Ça me surprendrait pas du tout que Jack Hayes se retrouve à Laval, puis effectivement, c'est probablement la meilleure place pour lui. Mais encore une fois, de la même façon que je parlais de Slafkovský et son moment qu'il a vécu au Centre Bell, le moment de Jack Hayes après le combat contre Cashin, le Centre Bell qui est en délire, lui en allant au bois de punition, est en train de faire des gestes pour que la foule soit plus brillante. Tu sais, lui aussi a eu une certaine façon son moment à lui de bienvenue dans la Ligue nationale. Tu sais, et honnêtement, tu sais, je peux pas dire pour certains, mais c'est peut-être ce feeling-là qui l'a nourri quand il a vu Josh Brown avec les mains hautes quand il est allé pour frapper Slafkovský. Puis il y a eu un clic, puis il a dit « OK, moi, j'y vais. » Moi, je m'en fous de mes responsabilités en ce moment. Moi, je vais frapper ce gars-là. C'était peut-être un peu ce vague-là d'émotion de ce combat-là qui a mené à ça. Mais tout comme Slafkovský, c'était une soirée importante dans le développement de Jack Eye aussi parce qu'il a connu peut-être les mêmes frissons, les mêmes sentiments, les mêmes feelings que Slafkovský a eu après son combat. Alors, Martin Saint-Louis était drôle là-dessus. Tu sais, il dit... J'aime que mes défenseurs pinchent, mais c'est un peu creux pour un pinch, celui-là. Puis, il faut juste tourner la tête comme entraîneur parce qu'effectivement, il savait que ça crée une certaine culture. Tu sais? Puis, c'est une drôle de coïncidence que Jack Eye a choisi Cashin comme partenaire de combat parce que, tu sais, on se rappelle tous la saison passée quand Cashin a frappé Samuel Montembeau, puis il y a personne qui a rien fait et que tout le monde était déçu. Jeff Petrie, le premier, Dominique Ducharme, Ryan Poehling étaient dans le portrait. Personne n'a rien fait à Zach Cashin, puis il était juste debout en train d'attendre que quelqu'un vienne lui voir, puis personne n'est venu le voir. Puis c'était vraiment le snapshot, tu sais, le portrait parfait de ce qui n'allait pas avec cette équipe-là la saison passée. Jack Eye, de lui battre la façon qu'il l'a fait et d'aller défendre son coéquipier plus tard dans ce même match-là, démontre ce que le Canadien aimerait bâtir comme sentiment d'équipe avec ce club-là.
Écoute, il y a été beaucoup question dans les derniers jours de Caden Gooley qui joue du hockey exceptionnel depuis le début de la saison. Vendredi, après la photo d'équipe du Canadien au Centre Bell, Martin Saint-Louis était invité à commenter le travail de Jordan Harris. Lui a lancé des fleurs également. Harris, somme toute, sentir mieux globalement que Jack Eye, puis son jeu a augmenté de manière exponentielle par rapport au camp d'entraînement. Mais Martin Saint-Louis mentionnait le fait que c'est beaucoup le travail avec ses pieds puis son bâton qui lui permet de se défendre comme il faut. Mais c'est un gars qui a tellement de mobilité qui est rapide, il est vif en récupération de rondelles. C'est un gars qui aussi va pouvoir aider la transition à l'attaque. Fait que moi, je me garde une certaine réserve parce que on le sait, là, à mesure que la saison va avancer, le niveau de jeu va augmenter, l'intensité va augmenter, puis je dois donner raison à Dominique Ducharme qui expliquait qu'il y avait différents, il y avait comme quatre étapes, quatre paliers dans une saison de hockey, puis c'était un défi pour un joueur de pouvoir se montrer à la hauteur de la tâche à chacun de ces nouveaux paliers-là. Puis je me garde une réserve à savoir si les jeunes défenseurs du Canadien, à commencer par Jack Eye puis Harris, vont être en mesure justement de maintenir leur niveau et garder la tête à l'extérieur de l'eau face à ces différents paliers-là. Mais ce qu'on voit en début de saison, c'est très encourageant de la part de Harris, qui, même s'il n'a pas un physique qui lui permet de dominer, il se tire très, très bien d'affaire. J'ai trouvé ça intéressant, notre collègue Martin McGuire qui a posé une question à Martin Saint-Louis vendredi au sujet de Harris, qui lui demandait à Saint-Louis est-ce que ça va être important que Harris travaille sur son lancer. Si Harris, étant donné qu'Harris n'a pas un gros gabarit, ça va être important qu'il ajoute une dimension offensive à son jeu. Puis je pense que certains de ses instincts offensifs sont déjà là. On le voit dans sa façon justement de transporter le disque. Mais s'il arrive à avoir un lancer plus puissant que celui qu'il a à l'heure actuelle, qui pourrait peut-être lui servir sur une deuxième unité d'avantage numérique à un certain moment ou quoi que ce soit, ça pourrait vraiment être un élément important dans son jeu. Fait qu'on verra au fil du temps s'il va être capable de développer ça.
Oui, en fait, ça me fait rappeler un peu Victor Mété. Tu sais, puis en ce moment, Harris joue presque 20 minutes par match. Ça, c'est en fonction de la nécessité d'avoir quelqu'un jouer du côté gauche. Victor Mété, évidemment, a eu sa place avec le Canadien à cause d'une nécessité d'avoir un partenaire pour Shea Weber à l'époque. Démontrer un peu les mêmes caractéristiques que Harris, dans le sens où ce gars, avec son coup de patin, était capable de relancer l'attaque défensivement. C'est... se fiait plus sur avoir un bon bâton puis ses pieds pour bien se positionner pour défendre, mais avait quand même un défi à ce niveau-là à cause de son petit gabarit. Et tu sais, Harris, quand tu parles de son tir, c'est vrai. En ce moment, Jordan Harris est classé deuxième sur l'équipe avec 16 tirs au but en 5 matchs. Ce qui me surprend parce que je peux pas me rappeler d'aucun de ces tirs au but là. Il y avait pas de tir qui était vraiment dangereux ou c'était comme puis qui ont même créé des situations dangereuses. Tu sais, c'est pas comme s'il a tiré puis ça créait un retour de lancer qui était difficile pour le gardien de maîtriser. Alors oui, c'est sûr que ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'il travaille. Puis comme Jack Eye, probablement quand Mike Matheson revient dans 2 mois. C'est fort possible que Jordan Harris se retrouve à Laval et à Laval, il va être donné plus que 20 minutes par match sûrement une fois qu'il arrive, s'il continue à jouer de même. Mais je trouve ce qui est encourageant dans son cas et où il est différent de Mété, c'est que tout le monde sait qu'il a un bon coup de patin. Tout le monde prend pour acquis que quand quelqu'un a un bon coup de patin, que ça va contribuer offensivement, mais honnêtement, son jeu défensif, pour moi, est plus convaincant que ça l'était avec Mété à l'époque.
Oui.
Mais c'était la même chose avec Mété, c'est que tout le monde voyait son coup de patin et dit « Ah, ça va être bon en transition, c'est un gars qui va aider l'offensive. » Mais c'était vraiment un défenseur défensif. Même si son jeu défensif n'était pas super, puis c'est un peu à cause de ça qu'il y a de la misère à demeurer dans la Ligue nationale en ce moment. Mais le jeu défensif de Harris, pour moi, est beaucoup plus encourageant que celui de Mété. Mais je pense, je me demande si de la même façon que ce soit un défenseur mobile qui n'est pas nécessairement un défenseur offensif. C'est ça qu'on va avoir en Jordan Harris dans 2-3 ans quand il sera en pleine maturité.
Oui, absolument. Écoute, on disait au début de l'épisode que bon, le Canadien avait reçu la visite des Coyotes de l'Arizona et que c'est une équipe qui a clairement les yeux sur la loterie, sur le tirage au sort du prochain repêchage. Puis on aurait pu voir avec un certain cynisme l'affrontement de jeudi comme étant un peu le Bedard Bowl entre ces deux formations-là. D'abord, j'aimerais ça t'entendre de manière générale là-dessus. Est-ce que jusqu'à quel point penses-tu que le Canadien garde un œil sur sa position au classement général et sur et à quel point il se garde les doigts croisés pour obtenir un haut choix au repêchage, évidemment que ce soit Connor Bedard ou bien encore un Adam Fantilli comme prix de consolation, mais est-ce que ça brouille les cartes de voir que les résultats initiaux de l'équipe peuvent ouvrir la porte à de meilleurs résultats cette année que ce qu'on aurait pu s'attendre au départ? Est-ce que tu crois que tout ça a changé par rapport à ce qu'on voyait se dessiner avant le début de la saison?
Non, à mon avis, non. Écoute, comme tu as mentionné, c'est cool que tout le monde a pu vivre ces 3 victoires-là au Centre Bell. Mais il ne faut pas exagérer, là. Honnêtement, c'est ce défensive-là, même en pleine santé, la situation devant les buts, tu sais, Jake Allen, il est bien correct, mais c'est pas quelqu'un qui va gagner des matchs tout seul. La défensive est pas adéquate. Écoute, il peut prouver le contraire, mais à mes yeux, ça va être difficile pour cette équipe-là de gagner plus souvent qu'il perd. Et c'est un bon début de saison, mais moi, j'ai besoin d'un plus grand échantillon avant de dire que cette équipe-là est en train de brouiller les cartes. T'sais, moi,
c'est pas brouiller les cartes autant que dire penses-tu que le Canadien pourrait finalement se ramasser à avoir de meilleures performances cette année juste pour suffisamment pour s'éloigner vraiment des bas-fonds de la Ligue? Je te dis pas qu'ils deviennent une équipe de série, là, on s'entend, là, mais qui soit juste un peu trop bon pour avoir de bonnes chances d'avoir le premier show au total.
Ben, c'était quoi ma prédiction?
Tu m'avais dit 25.
27?
Ouais, je pense que c'était 27, c'est ça.
27.
Moi, je t'avais dit
27 ou 25?
Ouais, c'est parce que t'avais mal
calculé mes affaires.
C'était 27, puis moi j'avais dit 29. J'avais dit qu'il y avait seulement Chicago, Phoenix, l'Arizona et puis San Jose qui allait probablement finir derrière lui.
Ouais, c'est ça. Alors, déjà, j'avais l'impression que, tu sais, il serait pas dans le top 5 des chances, des pourcentages d'obtenir le premier choix. Premièrement, c'est vrai que tu sais, il y aurait moins de chances techniquement, mais terminer 32e te donne une chance sur 3 plus ou moins là, d'avoir le premier choix. Si je ne me trompe pas, c'est pas mal ça. Là. C'est dans la trentaine.
Sur 4. Une chance sur 4,
c'est ça. Alors, tu sais, la différence entre ça et une chance sur 6. Qu'est-ce que ça change? Mais si ça te permet d'avoir des soirs comme ça, un peu, tu sais, de temps en temps pendant la saison, des grosses victoires, tu sais, en battant les Leafs le premier match de la saison, si t'es capable d'avoir ces expériences-là pour les jeunes joueurs de l'équipe, pour avoir les résultats, pour backer le processus, comme Martin Saint-Louis en parlait, je trouve que c'est important. C'est important. C'est plus important que de perdre quelques points de pourcentage dans les probabilités d'aller chercher le premier choix. Parce que, honnêtement, l'année passée, c'était une des seules fois des 12 ou 13 dernières années où la pire équipe de la Ligue a obtenu le premier choix.
Ouais.
C'est arrivé à Toronto Et là, c'est pas mal tout, là. C'est vraiment, depuis le repêchage, et c'est arrivé à Edmonton. Je pense, non, Buffalo était pire qu'Edmonton cette année-là. Alors, ça arrive pas très souvent. Ça arrive plus souvent qu'une autre équipe remporte le loterie que la pire équipe de la ligue. En tant que ça, vu que la loterie est construite d'une façon qui décourage les équipes de faire du tanking, qui décourage les équipes de faire ce qu'Arizona est en train de faire en ce moment, moi, je dis tant mieux si les Canadiens sont capables de gagner quelques matchs. Écoute, ils vont pas grimper plus haut que 25e dans la ligue, je peux pas croire, au moins. Si veulent.
Non, parce que, écoute, il y a des équipes qui ont des débuts de saison terribles, mais qui, à mon avis, risquent de rebondir si un changement d'entraîneur. Une équipe comme Vancouver, par exemple, si les choses continuent d'aller aussi mal qu'elles vont en ce moment, ils vont finir par congédier leur coach. Et puis, le changement d'entraîneur va leur donner le bump qui va être suffisant, à mon sens, pour les rendre meilleurs qu'une équipe de 25e à 30e rang, par exemple. C'est mon avis, c'est mon opinion personnelle.
Ouais, ben écoute, mais ce qui est important, c'est que tout ça est hors du contrôle du Canadien. Le Canadien veut pas que Martin St-Louis et ses joueurs pensent à ça. C'est bien correct si Kent Hughes pense à ça, si Jeff Gorton pense à ça. En fait, c'est tout à fait normal. Mais tu veux pas que l'équipe pense à ça. Puis c'est la même chose à Arizona, même si c'est beaucoup plus évident Arizona, ce qui est en train de se passer. Tu vois le line-up sur papier, puis ils ont joué comme l'équipe à l'air sur papier, jeudi soir au Centre Bell. Mais leur entraîneur, André Trourigné, a été demandé, en fait, c'était une bonne question de Marc-André Perrault de TVA Sports, qui lui a demandé, quand toi, tu entends le mot « tanking », qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoutez sa réponse.
Bon, moi, je pense que c'est une réalité dans le sport. Ça se passe pas à mon niveau, ça se passe au niveau au-dessus. Tu sais, puis ma job à moi, c'est pas de décider si on devrait ou on devrait pas. Puis c'est même pas de l'accepter ou de pas l'accepter. C'est pas ma job. Tu sais, c'est la même affaire que de dire que le goaler veut scorer des goals. C'est pas sa job. Tu arrêtes les pas, puis c'est ça ta job. La même affaire. Moi, ma job, c'est de tirer le meilleur des 23 joueurs qu'on a.
Alors, c'est ça. C'est André Trourigné, puis là. T'sais, lui, il décrit comment ça se passe à Arizona en disant que moi, je suis le coach, c'est pas de ma job. Ça se passe au-dessus de moi, c'est pas de ma job. Mais j'ai l'impression, et j'aimerais t'entendre là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le cas à Montréal. J'ai l'impression que Martin St-Louis est beaucoup plus impliqué avec le plan global du management, que lui a son mot à dire là-dedans, de comment ça va se dérouler. Peut-être un peu plus que la façon qu'André Trourigné a décrit son rôle à Arizona. Es-tu d'accord avec ça ou non?
Oui, ben écoute, oui. D'une part, Trourigné est arrivé en Arizona en acceptant un plan qui était déjà déterminé sans lui. T'sais. C'est-à-dire que le directeur général Bill Armstrong avait son idée en tête. Il y avait déjà un plan qui était enclenché, qui était mis en branle, et lui allait. Il acceptait finalement de prendre les rênes de cette équipe-là, puis de faire en sorte que. Comme il l'a dit, de faire le mieux possible avec ce qu'il a, sachant que on allait lui ôter des morceaux en cours de route, puis que c'est toujours la vision à long terme qui allait prévaloir. Je pense que c'est beaucoup plus subtil dans le cas du Canadien. Je pense que ça va. Les moments où ça pourrait transparaître, c'est si jamais, par exemple, tu sais, par exemple, en ce moment, il y a Matheson et Edmondson qui sont sur le carreau, ben, le directeur général, c'est pas garocher sur le téléphone pour vite, 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 ça nous prend tout de suite un défenseur pour pallier à la perte de ces deux gars-là.
En fait, il est allé chercher un défenseur, mais il est allé chercher un défenseur droitier. Alors, ouais, ce qui était l'autre trou qu'il avait besoin de combler, mais c'était pas le trou qui a été créé par ces blessures-là.
Non, c'est ça. L'acquisition de Kovacevic servait principalement à pouvoir envoyer Justin Barron à Laval. C'est une stratégie de développement. Tu sais. Il pourrait s'inquiéter du travail de son gardien substitut, mais il ne cherche pas activement non plus à l'améliorer parce que ces petites améliorations-là compétitives, ça lui coûterait des atouts qu'il veut garder pour plus tard. Donc, c'est beaucoup plus subtil. Mais tu parlais de l'implication de l'entraîneur-chef. Martin St-Louis, moi, j'ai senti dès son embauche qu'il était partie prenante de l'équipe de direction et qu'il allait être, qu'on allait le consulter sur une multitude de dossiers. Parce que sa vision du hockey, c'est au centre de la façon dont le Canadien développe ses joueurs en ce moment. T'sais. On a beaucoup écrit à propos de Martin, à propos de Adam Nicholas également, puis du fait que ces deux hommes-là semblent voir le hockey de la même manière. Mais je pense que la vision de Martin Saint-Louis est indissociable de celle du Canadien. Alors lui, quand il dit, quand il parle du processus, quand il parle du fait qu'on ne gagnera pas tous les soirs, mais on va être là, et puis on va se battre, je pense qu'il demeure très, très conscient puis de la façon de ce qui est décidé au-dessus de lui. Mais en même temps, il ne peut pas non plus renier sa nature et dire bah, ben là, on va faire exprès de perdre. C'est aussi clair, remarque, en Arizona, les deux équipes, dans les deux vestiaires, les gars veulent gagner. C'est pas vrai, sortez-vous ça de l'esprit, là, c'est pas vrai que les joueurs des Coyotes, quand ils sont présentés au Centre Bell jeudi soir, disent ah, nous autres, on pense à Connor Bedard, puis tout bad si on perd, c'est pas grave. Non, ouais. Ces gars-là sont ils veulent gagner.
Ces gars vont dire on pense à Connor Bedard pour qu'il puisse venir prendre ma job, puis. Ouais, c'est pas comme ça que les gars pensent, tu sais.
Ben non, s'ils pensaient de même, ils n'auraient jamais atteint la Ligue nationale. Mmh. Puis là, ils ont un job à conserver, ils ont un nom à faire. André Tourigny, c'est la même affaire, il veut soutirer le maximum des gars parce que si jamais il n'est pas l'entraîneur de cette équipe-là quand elle va être finalement rendue à maturité, ben il va vouloir un autre emploi dans la Ligue nationale. Puis les autres équipes vont regarder, ils vont dire c'est quoi sa feuille de route, comment il s'y est pris pour soutirer le maximum de cette équipe-là qu'il avait sous la main. Mais je pense que malgré tout, Martin Saint-Louis est quand même davantage impliqué dans les décisions stratégiques que peut l'être André Tourigny. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on voit, on fait du développement à long terme chez le Canadien, mais je crois qu'on voit Martin Saint-Louis comme étant un morceau du puzzle à long terme également. Puis ça, je pense que ça rentre en ligne de compte. Je ne sais pas exactement ce que pense Armstrong de dire ben, on s'imagine avoir André Tourigny comme entraîneur-chef dans 5 ans. Je ne sais pas s'il pense comme ça, mais il y a fort à parier que Jeff Gorton puis Kent Hughes, eux, croient que si les choses vont comme ils le souhaitent, Martin Saint-Louis va être encore derrière le banc dans 5 ans.
Oui, puis je pense que Martin aussi a cette. Tu sais, même si son contrat n'est pas si long que ça, pas pour 5 ans, mais quand même 3 ans, ça lui donne un bon chemin à faire avec ce projet-là et de faire partie de ce projet-là en sachant que si. Tu sais, la seule façon que Martin pourrait vraiment perdre sa job dans le court terme, c'est si les performances des jeunes joueurs commencent à vraiment aller de l'autre direction. Tu sais, en ce moment, tu regardes les jeunes joueurs de l'équipe. Tu sais, il n'y a pas grand monde qu'on peut dire que, il n'y a pas de croissance, tu sais, il n'y a pas d'amélioration dans son jeu. Tu sais, puis même si c'était le cas, ça fait pas assez longtemps que Martin est là pour dire que, c'est vraiment la faute à Martin, tu sais, mais quand t'as quand c'est ce niveau de sécurité-là où t'as déjà eu ton DG qui est sorti puis a dit qu'on espère que Martin va grandir avec cette équipe-là. Puis une fois qu'on est rendu à un point où on peut compétitionner pour une Coupe Stanley, que lui aussi, il serait développé assez pour qu'il puisse être le coach ou l'entraîneur d'une équipe comme ça. Parce qu'en ce moment, il est parfait pour une équipe comme le Canadien est en ce moment.
Ouais.
Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, année après année, il va se développer un entraîneur qui est plus formé, plus prêt à diriger une équipe qui a des vraies attentes et des attentes réalistiques qu'il puisse gagner. Alors, parce que c'est, faut le dire, tu sais, Martin, c'est quand même des plus longues lunes de miel d'un entraîneur que j'ai jamais vu de ma vie. il peut rien faire de mauvais parce qu'il n'y a pas d'attente. Et tu sais, je dis ça parce qu'à Montréal, on n'a pas vraiment vécu une situation comme ça où l'équipe est clairement a clairement pas mis la priorité de gagner cette saison, a clairement dit que on, t'sais, faire les séries n'est pas leur but principal. T'sais, c'est comme ça, ça fait des années et des années. Là. Honnêtement, c'est... j'essaie de me rappeler la dernière fois que c'est arrivé. Je pense que c'est à l'époque de Craig Derby. Là, t'sais, il faut aller vraiment. Faut reculer vraiment loin pour dire que les Canadiens commençaient une saison en pensant que les séries étaient un peu hors de leur portée dès le départ. Ça peut arriver trop souvent. Alors, tant mieux pour Martin parce que il peut focusser sur les autres aspects de sa job qui va faire en sorte que cette équipe-là va être capable d'être une équipe qui s'attend à faire les séries et qui s'attend à se rendre loin en série après ça. Mais ça fait en sorte que tu sais, je sais pas à quel point André Tourigny a eu ces discussions-là avec Bill Armstrong. S'il l'a eu ou non, je l'ignore. Mais la façon que Ken Hughes décrit leur discussion entre tout le management et tout le personnel d'entraîneur, ça a l'air d'être une collaboration très ouverte où tout le monde a leur mot à dire. Et je suis sûr que Martin, le plan de Kent a reçu l'approbation de Martin Saint-Louis déjà, puis il fait partie de ce plan-là.
Mais dans les deux cas, cependant, je pense que ce qui est important, c'est que ça ôte la pression à l'entraîneur-chef de livrer des résultats à court terme. Tu sais, c'est-à-dire que quand on, peu importe le niveau d'implication de l'entraîneur dans le processus de décision qui mène à dire « bon, on s'en va dans telle direction », je pense que si l'entraîneur-chef est amené ou que l'état-major dit « OK, nous, on va s'orienter sur le développement, sur l'acquisition d'atouts. » Puis ça, je pense que c'est une mentalité dans laquelle les deux organisations étaient davantage l'année dernière que cette année, mais ça reste à voir pour les Coyotes. Là. Mais il y a quand même... Ça place les choses en jeu pour que les entraîneurs disent « OK, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous pend, puis... on a un besoin de livrer des résultats vite, 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 parce que sinon, on va perdre notre job. » Parce qu'ils ne sont pas amenés derrière le banc pour ça, à court terme. Alors ça, je pense que ça donne, dans les deux cas, une intéressante marge de manœuvre. Puis je pense que Martin Saint-Louis, jusqu'à maintenant, fait un boulot admirable pour pouvoir justement tirer au profit au maximum de cette marge de manœuvre-là. Puis quand tout à l'heure, tu disais, l'équipe va s'améliorer et lui va s'améliorer en même temps que l'équipe. Je pense qu'on l'a vu aussi par le fait que, en fin de compte, il n'y a pas eu d'adjoint d'expérience qui s'est ajouté à son groupe. Tu me diras, ouais, mais c'est peut-être difficile de trouver des entraîneurs aguerris qui vont accepter de venir perdre dans l'environnement de Montréal pendant X nombre de temps. Peut-être, mais le Canadien a décidé de miser sur le personnel d'entraîneur le moins aguerri, le moins expérimenté dans toute la Ligue nationale, en se disant, d'une certaine manière, sont au même point que nos joueurs, puis ils vont mûrir en même temps, ce qui fait que ce groupe d'entraîneurs-là aussi va arriver à maturité, puis dans 3 ou 4 ans, on va être devenu une équipe qui va être un prétendant à la Coupe Stanley.
Oui, alors c'est ça. Dans le fond, le marge de manœuvre que ça donne, c'est que tu as déjà entendu ton boss dire que la priorité, c'est le développement. Alors, si le directeur général dit que on va jamais prioriser les victoires à court terme sur le développement de nos jeunes joueurs, alors l'entraîneur doit pas le faire non plus. Ça veut pas dire que tu vas aller perdre. Tu vas aller perdre pour perdre ou perdre pour améliorer tes chances d'avoir le premier choix. Mais ça veut dire que, pour revenir à notre discussion sur Juraj Slafkovský et la situation à l'attaque qui va se compliquer avec le retour bientôt de Joel Armia. Mm-hmm. Ça, c'est une décision de développement. Si Juraj Slafkovský, moi, je dirais pas qu'il jouait mal avant le match de jeudi, mais il jouait d'une façon un peu effacée, disons. Il n'y avait pas un gros impact sur les matchs. Il était capable d'aller jouer. Et je trouve qu'il faisait des bonnes choses, puis il apprenait beaucoup de bonnes choses, des bonnes habitudes qui vont l'aider à avoir un impact dans les matchs dans plusieurs semaines. Sauf que tu peux dire ça quand tu es une équipe qui ne met pas la priorité sur se remporter chaque match. Tu sais, ça se dit quand le développement est plus important que les victoires. Et quand les victoires sont plus importantes que le développement, puis tu as un jeune qui est juste en train de jouer sans nécessairement contribuer à la capacité de remporter un match d'une équipe. Mm-hmm. Là, tu peux faire l'argument, écoute, lui, il nous aide pas à gagner. Alors, pourquoi il joue? Et pour le Canadien, il joue parce qu'il s'améliore. Et c'est ça qui est important. Alors, quand Yoel Armia revient, cette décision-là devient plus compliquée. Tu sais, il n'y a pas... Tu sais, garder 15 attaquants en santé au sein de l'équipe, au sein de l'alignement ou du roster, ça veut dire garder seulement 6 défenseurs. Le Canadien part sur la route la semaine prochaine pour un long voyage. Buffalo, Saint-Louis, Minnesota, Winnipeg, ce qui inclut 4 jours à Saint-Louis. Alors, dans le fond, ce n'est pas des places où tu peux facilement amener un défenseur rapidement si tu en as besoin d'un. Alors, en toute probabilité, ils vont partir pour ce voyage-là avec 7 défenseurs. Ce qui veut dire que 15 attaquants, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Parce que il y a pas d'autres attaquants que tu peux envoyer à Laval, à part Slafkovský, sans le soumettre au barrettage, si je ne me trompe pas. Est-ce que je me trompe là-dessus? Non.
Non, en fait.
Non. C'est non. Seul, alors,
on inclura alors, pas Caulfield quand même.
Non, c'est ça. C'est ça, exact. C'est le seul autre, dans le fond. Alors, qu'est-ce que le Canadien va faire? Parce que si Slafkovský est en train d'améliorer, puis le Canadien est convaincu que il a sa place à Montréal, puis c'est la meilleure chose pour son développement, qu'est-ce que tu fais quand Yoel Armia est en santé? Puis honnêtement, il y a un besoin pour un joueur. Tu sais, le monde va peut-être rire, là, mais il y a un besoin pour un joueur comme Yoel Armia qui est quand même un joueur responsable défensivement, un joueur avec beaucoup d'expérience, qui est très efficace en infériorité numérique, quelque chose qui manque de façon flagrante au sein des effectifs que Martin Saint-Louis a à sa disposition, au point où Evgeny Dadonov est un membre régulier de cette unité-là sans avoir jamais joué de sa vie en infériorité avant cette année. Alors, comment tu penses qu'ils vont gérer cette décision-là?
Ben écoute, ils ont toujours... Kent Hughes a martelé que les décisions d'alignement n'allaient pas avoir d'impact sur ce qu'ils décident de faire avec Juraj Slafkovský. Je pense que quand ça fera 7 ou 8 matchs que la saison est commencée, ça va continuer d'être comme ça. Et s'il voit une amélioration dans son jeu, ils viendront certainement pas interrompre ça sous prétexte que Yoel Armia revient au jeu. Alors, partant de là, disons que Juraj Slafkovský, les choses soit se maintiennent ou continuent de s'améliorer. Tout sauf elle régresse. Je ne pense pas que ce serait lui qui serait cédé à Laval au retour de Armia. Je crois que même moi, personnellement, Yoel Armia, j'ai de la difficulté avec son manque d'intensité. J'ai de la difficulté avec la longueur de son contrat. Par contre, malgré tous ses défauts, le style de joueur qu'il est, je crois, le Canadien en a besoin. Tu viens de mentionner Dadonov en infériorité numérique. Le Canadien manque de joueurs, d'attaquants à caractère défensif. Ils ont Jake Evans, mais sinon, leur autre meilleur, c'était Paul Byron, puis lui, il est sur la touche.
Après ça, Christian Dvorak.
Quand même. Ouais. Exact. Christian Dvorak. Alors, je pense que Armia pourrait très, très bien rentrer sur un quatrième trio, aller jouer en infériorité numérique et potentiellement aux dépens de Yevgeny Dadonov, qui a déjà joué en l'espace de 5 matchs, plus en désavantage numérique que dans toute sa carrière auparavant, soit dit en passant. C'est vous dire, il avait à peu près pas joué 3 minutes et des poussières. Est-ce que ça repousserait Dadonov à l'extérieur de l'alignement? J'en doute. Moi, les deux personnes que je trouve les plus vulnérables à être soumises au ballottage, ce serait Rem Pitlick et Mike Hoffman. Je ne pense pas que le Canadien soumettrait Michael Pezzetta au ballottage, même s'il n'a pas joué un seul match jusqu'à maintenant, pour la même raison que cette équipe-là est contente d'avoir Arbor Jacky. C'est une épice qui... C'est pratique d'avoir ce type de gars-là dans ton alignement. Et
c'est aussi à son salaire, c'est beaucoup plus facile pour une équipe de réclamer.
De l'intégrer. Il y aurait plus de chances d'être réclamé au ballottage.
Mm.
Mike Hoffman, tu regardes. Tout à l'heure, je disais, le Canadien a profité du fait que le match était hors de portée des Coyotes pour répartir le temps de jeu. Le seul gars qui n'en a pas profité du tout, c'est Mike Hoffman. Et je pense que maintenant, Martin Saint-Louis constate quelle était l'aberration de Marc Bergevin de l'avoir embauché en premier lieu. C'est que la principale utilité de Mike Hoffman, c'est de pouvoir tirer un avantage numérique depuis le cercle droit. Cercle droit, c'est l'endroit où s'installe Nick Suzuki. Puis Nick Suzuki, tu ne le déplaceras pas de la première unité. Fait que là, finalement, tu gardes un gars qui te rend vulnérable à 5 contre 5 et que tu es obligé d'employer sur ta deuxième unité d'avantage numérique. À mon sens, il n'y a pas vraiment de maximisation de ces atouts-là. Je sais que Martin Saint-Louis a dit « Ah, ben je crois en son sens du hockey, etc. » Peut-être, mais à mon sens, il me paraît vulnérable. Rem Pytlick, encore plus, parce que Rem Pytlick, lui, il a commencé la saison comme étant un des 12 attaquants dans la formation. Il a vite perdu sa place. Et c'est un gars qui n'est pas défini par une facette du jeu en particulier où tu dis « Si je l'amène dans le match, il va m'aider là. » T'sais, il fait un petit peu de ci, un petit peu de ça. T'sais, il a un coup de patin intéressant, il a une créativité intéressante. Mais c'est un gars qui a besoin d'avoir les pédales dans le fond constamment, sinon il devient vulnérable. Puis il y a eu des beaux flashs avec le Canadien à son arrivée l'année dernière. Mais c'est un gars aussi qui a été, dans la jeune vingtaine, il y a déjà deux organisations qui lui ont tourné le dos. Il s'est ramassé souvent dans la Ligue américaine. Puis encore plus que Mike Hoffman, parce que j'ai l'impression qu'Hoffman, ce serait un peu atteindre un point de non-retour que de poser un geste comme celui-là. Je pense que Rem Pytlick, il m'apparaît comme celui qui serait le plus vulnérable.
Oui, je pense qu'il est beaucoup plus vulnérable que Mike Hoffman parce que, écoute, je comprends ton point de vue qu'il n'y a personne qui va réclamer Mike Hoffman, sauf que si tu l'envoies à Laval, tu le perds. C'est une situation où si tu as le moindre espoir que ce gars-là peut commencer à marquer des buts et tu maintiens le moindre espoir que tu peux convaincre un DG qui est aveugle à quelque part, qui a besoin d'un gars qui peut marquer des buts en jeu de puissance ou juste en général, un tireur, franc tireur comme lui, l'envoyer à Laval, ça tue tout ça. C'est fini. Alors, ça veut dire que les deux prochaines saisons, cette saison et la saison prochaine, t'as le 4,5 millions de Mike Hoffman qui traîne.
Ouais.
Ah, puis c'est de l'argent qui va dans un trou noir. Là. C'est vraiment ça. Pytlick, je pense que la deuxième année de son contrat, même si c'est seulement pour 1,1 million, mais la deuxième année de ce contrat-là va faire en sorte que lui aussi, il n'y a pas grand monde qui va le réclamer. Et je pense que c'était une bonne affaire que le Canadien l'a donné cette deuxième année-là pour effectivement être capable de faire en sorte qu'il va passer à travers le ballottage et pourrait se retrouver à Laval à un moment donné. Alors, c'est ça. Je pense, Pytlick, tu sais, t'as pas vraiment, tu sais, lui est pas ici pour nécessairement, où je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour les Canadiens de l'échanger nécessairement. Je pense qu'il est là parce qu'il est capable de plugger des trous un peu partout dans l'alignement, si tu veux. Tu sais, si tu manques, si tu manques un ailier sur le premier trio, Pytlick peut aller là. Si tu manques un centre de quatrième trio, Pytlick peut aller là. Il peut aller jouer à n'importe quel des 12 rôles qu'il y a dans dans l'attaque. Dans des Hoffman, dans un monde idéal, il retrouverait sa touche de marqueur, il marquerait quelques buts, peut-être, sinon, avant la date limite, peut-être la saison morte ou l'été prochain, quand il reste juste un an de contrat, tu gardes une grande partie de son contrat de 4,5 millions et tu essaies de l'échanger pour whatever. Ce qui est, à mes yeux, peut-être pas probable, mais c'est possible que ça arrive avec lui. Tu sais, c'est pas comme si il a oublié comment tirer la rondelle. C'est juste une question de le mettre dans des positions où il est capable de tirer des rondelles parce qu'il est toujours capable de battre des gardiens, sauf que il a l'air de jamais avoir ces opportunités-là. Alors oui, je suis d'accord avec toi que, et Pazzetta, sais, je sais que le Canadien le voit, comme tu l'as décrit, comme un gars qui amène un certain élément que les autres joueurs de l'équipe n'ont pas. C'est un des seuls où, tu sais, jeter les gars fait partie de son identité. Il sait que c'est quelque chose qui amène. Moi, je ne verrais pas ça comme la fin du monde si jamais il était perdu au ballotage. Je l'aime bien. C'est un bon gars. C'est une belle histoire. Il a vraiment travaillé fort pour se rendre à la Ligue nationale. Et s'il est réclamé au ballotage, tant mieux pour lui. Il va aller à une équipe qui doit le garder dans la Ligue nationale. Mais je pense pas que ça serait quelque chose de vraiment grave pour le Canadien si ça arrivait, là. Mais entre Petetta et Pitlick, je pense que les chances sont meilleures que ce soit Pitlick éventuellement qui se retrouve là. Ou que le Canadien avait décidé d'avance que pour ce voyage-là, Slavkovski passerait ce voyage-là à Laval. Ça aussi, c'est une autre possibilité qu'ils vont lui donner comme une semaine à Laval.
Ouais.
Puis il revient après le voyage, là. Puis il garde 6 défenseurs à domicile, puis il amène 7 sur la route, puis Slavkovski fait le aller-retour à Laval.
Puis
c'est une autre possibilité.
Ouais, parce que, tu le disais tantôt, le Buffalo, Saint-Louis, Minnesota, Winnipeg. Si tu veux décourager un Européen de la vie en Amérique du Nord, tu lui fais faire ce voyage-là.
Ouais. Ouais, effectivement. Ben, au moins, ouais. Mais moi, Canadien, il y a des avions analysés, là. C'est pour quelqu'un qui s'apprête à faire ce voyage-là sans ce luxe-là. C'est encore plus compliqué. C'est encore moins attirant comme voyage, ça, c'est certain. Mais oui, c'est vrai. Puis en fait, il passe 4 jours à Saint-Louis, là. Saint-Louis peut être déprimant, là, des fois, là, c'est honnêtement. Mais oui, alors c'est ça. Si tu veux garder son premier long voyage dans la Ligue nationale pour quelque chose qui est un peu plus glamour que ça, puis il a déjà vécu Détroit là-dedans. Alors,
oui, oui. Non, mais écoute, Détroit, ça a pris du mieux. Vraiment, là, j'ai été surpris. Ouais. Ça va.
Ouais,
les choses se sont vraiment replacées à Détroit. Mais écoute, c'est intéressant comme notion parce que, tu sais, dans une saison de hockey, combien de temps une équipe peut garder 15 attaquants ou 14 attaquants en santé. À un moment donné, en l'espace de 10 jours, il y en a toujours un qui va...
Ouais.
Qui va avoir un
beau... Le problème va se régler elle-même, là, c'est ça.
C'est ça. C'est souvent ça qui se produit, de toute façon.
Ouais.
Fait que, OK, ben écoute, ça va être un dossier à suivre. Je pense qu'on aura l'occasion de s'en parler parce que, justement, Yoel Armia devrait revenir au jeu sous peu. Écoutez, je ne sais pas si vous en rappelez, ça fait longtemps, on ressort aujourd'hui une vieille pratique qu'on avait mis en suspens, mais là, le fait qu'on ait 2 épisodes par semaine et qu'on en ait un dans chaque langue à chaque semaine, ça nous permet de faire un suivi à ce niveau-là. Et je viens vous rappeler le fait qu'on a une boîte vocale. Alors, on ressuscite notre boîte vocale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous invite à appeler si vous avez des questions. Vous avez simplement à poser votre question en laissant votre message sur la boîte vocale. Et puis, on va choisir 1 ou 2 questions lors du prochain épisode et puis y répondre. Alors, vous pourrez entendre votre question sur notre épisode de vendredi prochain. Donc, le numéro de téléphone pour rejoindre, pour poser votre question, vous composez le 646-847-9404 646-847-9404. Donc, n'oubliez pas de vous nommer, de vous présenter. Et puis, également, on a un courriel qui est le balado HabsPod. Balado HabsPod @gmail.com. Donc, vous pouvez également nous écrire si vous êtes trop gêné pour le faire par voix orale.
Ouais, mais je veux dire que le boîte vocale a beaucoup plus de chances de paraître sur l'épisode parce que dans le fond, le médium, c'est audio. Alors, on aimerait ça entendre vos voix aussi. Puis je veux juste dire que pour le monde qui nous écoute, qui sont plus anglophones que francophones, on prend les commentaires dans les deux langues. Alors, dans le fond, on va mettre les questions anglais dans l'épisode anglais, puis les questions françaises dans l'épisode français. Mais vu qu'on a un épisode par langue, par semaine, on est plus en mesure de répondre à ces questions-là sans attendre nécessairement 2 semaines pour les répondre. Alors, c'est pour ça qu'on veut recommencer ça, mais on aimerait vous entendre là-dessus.
Exact. Alors, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi pour The Athletic Support. Et puis, on aura, selon toute vraisemblance, on pourra décortiquer le passage d'un certain Carey Price qui doit s'adresser aux médias lundi. Donc, ça va être à suivre. Passez un beau week-end, tout le monde. Merci, Arpen. Prends soin de toi.
Merci, tout le monde. Bon week-end et à lundi.